Bonjour. Comment construire rapidement un cloud hybride? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers d'un cas concret avec Pascal Rabier, en charge des systèmes hyperconvergés chez Hewlett-Packard Enterprise. Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal, merci de me recevoir.
Donc avec toi, nous allons parler de cloud hybride et voir le cas d'un de vos clients qui avait besoin de faire évoluer sa plateforme de virtualisation. Est-ce que tu peux nous faire part de son contexte et de ses attentes?
Oui, bien sûr. En fait, c'était un client existant, Microsoft, qui utilisait déjà la virtualisation sur Hyper-V et HPE, qui utilisait pour se faire des serveurs ProLiant. Et donc ce client a une problématique qui lui est propre, c'est qu'il a des équipes de développeurs qui développent ses produits, les produits qu'il distribue lui-même, et ces équipes de développeurs sont réparties sur trois sites. Donc il lui fallait trouver une infrastructure pour remplacer son infrastructure en place qui était vieillissante. Il fallait que cette infrastructure délivre des bons niveaux de performance, parce que c'est une population, les développeurs, qui est assez exigeante en termes de réactivité. Il fallait une solution qui soit très évolutive, à la fois sur site, puisque le contexte de performance impose d'avoir un minimum de ressources sur site, notamment pour les temps d'accès réseau, et également dans le cloud public, puisque par moment, il y a des tests grandeur nature à faire exécuter, et que ce n'est pas utile de dimensionner l'infrastructure sur site, juste pour des pics de charge. Et puis, dernier point, les équipes d'administration de ce client sont, elles, centralisées sur un quatrième site. Et donc, c'était important que le système soit simple à administrer à distance.
D'accord. Et dans la pratique, quelle réponse avez-vous apporté à ce client donc?
Eh bien, nous leur avons proposé une appliance de système hyperconvergé pour Microsoft Cloud Platform System.
En deux mots, c'est quoi un système hyperconvergé?
Un système hyperconvergé, c'est une architecture où l'on utilise les disques internes des serveurs pilotés par un mécanisme logiciel dit Software Defined Storage, où on va effectivement, du coup, agréger aussi bien les ressources de CPU mémoire que les ressources disques dans un cluster et partager les disques sur l'ensemble du cluster. Et en plus, on ajoute une fonctionnalité de management simplifié, centralisé, qui permet de délivrer notamment les attentes qu'avait ce client.
Ok, donc si on revient sur le cas précis du client, comment est-ce que la solution répond à son besoin?
Bien, tout simplement, puisque c'est un système hyperconvergé, la solution était livrée pré-intégrée au client, ce qui lui a permis d'avoir un déploiement très rapide, sans passer des semaines à paramétrer tous les composants matériels et logiciels de la solution. Ensuite, c'est une solution qui est relativement dense, qu'on a pu déployer facilement sur chaque site, donc avoir de la performance comme attendu par les développeurs, parce que les ressources de virtualisation sont sur le réseau local de chaque équipe. Et puis, c'est une solution évolutive, puisque du fait que c'est un système hyperconvergé, à nouveau, on va pouvoir ajouter des nœuds pour ajouter de la capacité serveur et stockage simultanément sur le réseau local à nouveau. Et en même temps, c'est une solution qui est prête pour une évolutivité ponctuelle vers le cloud public, puisque en fait, la solution comprend Windows Azure Pack, qui permet de connecter chaque cluster à Azure et de considérer Azure comme une extension des ressources de la solution. En particulier, si le client prévoit de faire des tests en charge de son application un peu grandeur nature, il va pouvoir le faire sans avoir besoin de dimensionner l'infrastructure sur site juste pour un pic de charge, mais simplement le dimensionner pour son usage courant et puis faire les tests de charge dans Azure.
Alors, est-ce que tu peux nous faire part de quelques détails techniques sur la configuration déployée?
Oui, effectivement, c'était donc des serveurs de dernière génération ProLiant Gen 9. Et donc, chaque site a été équipé de quatre nœuds hyperconvergés, donc fortement chargés en mémoire, nombre de cœurs et capacité disque, afin de délivrer la performance dont les développeurs avaient besoin, en particulier en termes de mémoire, puisque c'est un des points sensibles dans la virtualisation. On avait quatre serveurs à 512 gigaoctets par site, donc 2 téra de mémoire utile par site.
Donc tout à l'heure, tu parlais d'un critère important qui était la simplicité d'administration. Comment ça se passe pour les administrateurs maintenant pour administrer ces systèmes à distance ?
Concrètement, pour un administrateur, il utilise tout simplement la console habituelle, sa console System Center, à laquelle il a déjà été formé. Elle est juste enrichie par des plugins d'origine HPE pour permettre de piloter plus finement le matériel et de mieux comprendre, par exemple, dans SCOM, les événements d'origine matérielle, mieux gérer dans SCCM le déploiement d'updates, par exemple driver et firmware pour le matériel, et puis dans SCVMM, la gestion des VM et de leurs ressources stockage qui sont pilotées depuis ce composant de System Center.
Donc, est-ce qu'il faut des compétences particulières pour administrer et utiliser ce système ?
Du fait qu'on utilise les outils habituels, à la fois en termes d'administration au niveau logiciel, donc System Center, ils n'ont pas eu besoin de formation supplémentaire sur ce point-là. Ça a juste été un rapide transfert de connaissances à la fin de l'installation pour leur montrer les petits paramètres supplémentaires qu'ils pouvaient superviser au travers des plugins HPE. Pour les développeurs, ça a même été encore plus simple qu'auparavant, puisque dans Azure Pack, il y a un portail multitenant qui permet aux utilisateurs de déclencher eux-mêmes la création des VM dont ils ont besoin à travers d'une interface à la mode Azure. Pour les développeurs utilisateurs finaux, c'était vraiment tout bénéfice en termes de simplicité d'administration.
Alors justement, les développeurs en général, ils ne se préoccupent pas trop de la continuité de service. Mais les administrateurs, souvent, c'est un vrai sujet pour eux. Donc comment c'est pris en compte dans le système ?
Oui, parce qu'effectivement, les responsables des équipes développement n'ont pas spécialement envie, on peut les comprendre, de mettre un budget spécifique dans la continuité de service. Par contre, si le système venait à s'arrêter, ça va déclencher une forte baisse naturellement de productivité dans les équipes de développement. Donc ce n'est pas vraiment acceptable non plus. Et donc justement, comment on adresse ce point, c'est-à-dire qu'avec la propriété des systèmes hyperconvergés, on a des ressources qui sont réparties, serveur, stockage, entre les différents nœuds du cluster. Et donc, si on perd un nœud, on a une continuité d'accès sur l'ensemble de la solution, en particulier continuité d'accès aux données.
On a donc vu que cette appliance répondait parfaitement aux besoins du client en termes de performance, de simplicité et d'évolutivité. Maintenant, qu'en est-il au niveau économique ?
Bien, au niveau économique, le client y a également trouvé son compte, puisqu'en fait, du fait qu'il a acquis une solution hyperconvergée qui contient à la fois serveur et stockage, il n'a pas eu à remplacer, à renouveler ses baies de stockage existantes qui arrivaient en fin de vie. Donc il a de fait fait un gain de coût d'acquisition. Par ailleurs, il a également simplifié l'administration quotidienne et allégé les charges de son équipe d'administrateurs qui peuvent se consacrer à d'autres choses et qui sont donc avec des coûts d'administration quotidienne moins élevés.
Dernière question, on sait que Microsoft prépare une évolution de ses systèmes de cloud privé avec Azure Stack. Est-ce que cette évolution est prévue dans cette architecture hyperconvergée ?
Effectivement, c'était également un des enjeux de ce client, c'est-à-dire être prêt pour l'avenir, non seulement en termes d'évolutivité de performance, mais également en termes d'évolutivité au niveau des versions logicielles. Dans la solution actuelle, il y a Windows Azure Pack qu'on ne pourra pas upgrader directement vers Azure Stack, puisque Azure Stack va introduire pas mal de changements. Toutefois, il y aura toujours la compatibilité en termes de VM. Donc on va pouvoir migrer une VM d'une solution Azure Pack vers une solution Azure Stack. Donc ce qui est prévu pour l'évolutivité, c'est simplement d'ajouter de nouveaux nœuds en nombre minimal juste pour démarrer un cluster Azure Stack et de migrer les VM. Et au fur et à mesure que l'on libère de la place en termes de ressources matérielles sur le système Cloud Platform System, on va pouvoir donc décommissionner des nœuds dans le cluster existant pour les migrer dans l'infrastructure, la future infrastructure Azure Stack lorsque le produit sera disponible et donc avoir une transition tout à fait fluide vers la future solution.
Merci Pascal.
Merci Pascal de m'avoir proposé de venir présenter les solutions HPE et Microsoft.
Nous venons donc de voir comment les solutions hyperconvergées d'HPE permettent de faire rapidement ses premiers pas vers un cloud hybride, tout en gardant une évolution possible vers une expérience cloud de bout en bout grâce au futur Azure Stack. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions hyperconvergées d'HPE, je vous invite simplement à visiter leur site. Merci et à bientôt.